Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup.
N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. Septième dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast.
Bienvenue dans ce huitième épisode de La Vérif du podcast de 7ème Dimension, un épisode qui s'ouvre sur les guitares tonitruantes de Steve Vai pour les besoins du thème principal du film Ghost of Mars. Alors oui, on continue notre diptyque dédié à John Carpenter. Donc le précédent épisode de La Vérif en fait était consacré à Vampire, donc là nous allons nous consacrer sur le film suivant qui est Ghost of Mars. Alors j'avais déjà expliqué dans le précédent épisode que j'avais essayé de trouver une thématique par rapport en fait à la période estival, et après en fait la chaleur du Nouveau-Mexique, on reste au Nouveau-Mexique, mais un Nouveau-Mexique futuriste pour les besoins d'un film de science-fiction, donc une nouvelle incursion de John Carpenter dans la science-fiction après The Things, après Invasion Los Angeles, après Starman, qui est Ghost of Mars. Alors ce qu'il faut savoir sur Ghost of Mars, c'est que c'est, comme je l'avais déjà expliqué précédemment, pour moi le dernier opus de John Carpenter, c'est-à-dire que quand il sort en 2001, on le sait pas forcément, mais ça sera réellement le dernier film de John Carpenter. Même si The Ward est venu après, on va dire que The Ward c'est plus une œuvre de commande et non pas un film pur jus Big John Carpenter. Donc là vraiment on est sur la fin de carrière, le dernier film. Donc on va dire la dernière offrande de John Carpenter à ses fans. Alors ce film là, Ghost of Mars, vous pouvez le voir en fait comme un film somme. C'est-à-dire qu'on va y retrouver toutes les thématiques qui ont inondé en fait la filmographie de John Carpenter. Avec Ghost of Mars, c'est la première fois en fait que John Carpenter s'attaque réellement frontalement à la science-fiction. La science-fiction qu'on retrouvait déjà dans sa filmographie précédemment, notamment par exemple dans The Things ou Invasion Los Angeles, c'est plus des éléments typés science-fiction, mais pas de la science-fiction brute frontale. C'est-à-dire que là, on se projette directement dans le futur, sur une autre planète. Donc vraiment, là, John Carpenter investit le genre de la science-fiction et un genre qui nécessite normalement un minimum de budget. Et c'est le cas présent, c'est-à-dire que pour Ghost of Mars, Sandy King réussit à lui trouver une petite enveloppe, qui pour l'époque est quand même assez correcte, de 28 millions de dollars, qui lui permet notamment d'avoir accès à des effets spéciaux à la fois digitaux et sur le plateau, qui permettront du coup d'illustrer au mieux cette vision de SF. Alors on va un petit peu parler de l'origine du projet. Donc ce qu'il faut savoir avec Ghost of Mars, c'est que c'est un peu le même cas de figure que certains films de la filmo de John Carpenter, c'est-à-dire qu'il va saisir en fait une opportunité. Donc Ghost of Mars, s'il est produit au début des années 2000, c'est parce que il y a eu une vague à Hollywood de films orientés qui tournent autour de la planète Mars. Donc on a eu le Mission to Mars de Brian De Palma, et on a eu aussi un Planète Rouge, starring Val Kilmer et Carrie-Anne Moss, qui traitait aussi du sujet de la planète Mars. Donc il y a réellement une demande, donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne à Hollywood. En 1995-96, fin des années 90, il y avait aussi cette vague de films, on va dire, de science-fiction, d'invasion extraterrestre, où on avait eu droit à Independence Day, Mars Attack, Starship Troopers, donc on avait eu cette vague-là, et en parallèle, on avait eu aussi une vague, à l'approche du début du millénaire aussi, de films catastrophes, où on avait retrouvé Volcano, le Pic de Dante. Donc on est encore dans cette logique, en fait, de production des studios qui vont traiter un sujet, parce qu'on n'est pas à l'ère de Netflix et de leur algorithme qui va déceler, on va dire, un besoin sur des films qui tournent autour de la planète Mars. Là, on est vraiment sur des volontés de producteurs. Donc du coup, John Carpenter, globalement, c'est ce qu'on peut comprendre aussi, il a jamais été non plus porteur de projet, aller défendre le projet en disant voilà, comme le pourrait le faire en fait un James Cameron, qui lui a toujours porté un projet et plié en fait ses attentes, enfin plutôt plié les attentes des spectateurs à ses propres attentes, c'est-à-dire que les cartons au box-office que sont les Terminator, que sont Avatar, que sont Titanic, c'est pas issu d'une projection d'un producteur. C'est-à-dire que c'est James Cameron a toujours su trouver le public, comme Steven Spielberg aussi quelque part. Donc lui, John Carpenter, lui, il est à l'inverse. C'est-à-dire que, comme de toute manière, on l'avait déjà expliqué, et je pense que vous le savez aussi, que John Carpenter n'est pas non plus le réalisateur préféré des majors hollywoodiennes, donc on va pas aller lui dire « Hey John, si tu veux, on te file une enveloppe de 30, 50 ou 100 millions de dollars, vas-y, fais ce que tu veux. » Non, c'est pas ce cas-là. Lui, John, pour exister, du coup, dans cette politique des studios, bah, il va un peu là où le vent le porte, et il arrive à transformer, on va dire, ses commandes, ses idées-là de producteur en films qui lui sont propres. Donc du coup, voilà un petit peu le point de départ de ce Ghost of Mars. Il y a vraiment une volonté, notamment via la jeune société Screen Gems, de créer du film de genre autour d'une idée qui est porteuse, on va dire, au box-office. Ce qui sera pas le cas au final, hein. C'est-à-dire que là, on peut le dire dès à présent, Ghost of Mars, c'est 28 millions de dollars de budget et c'est 8 millions de dollars à la sortie de recettes au box-office. Donc on appelle ça un four. Et même l'exploitation vidéo qui sera faite derrière ne permettra pas de rembourser la mise. Donc c'est un échec cuisant. Donc, étant donné que, comme je vous le disais, c'est le dernier vrai film de John Carpenter, on va dire que la boucle est bouclée. Voilà. Carpenter, il a rapporté de la thune au studio avec des coûts qu'il a pu monter à l'époque, qui étaient par exemple des films comme Halloween, mais qui étaient déjà des produits de commande. Donc il a réussi à faire gagner de l'argent au studio avec des mises de départ qui étaient très faibles. Donc, et globalement, dès qu'on lui confie un budget qui est un peu plus costaud, ben c'est là qu'en fait ça rapporte pas sa mise. C'est un petit peu le paradoxe et la malédiction d'un réalisateur comme John Carpenter. Donc du coup, le projet Ghost of Mars est produit en fait sur cette demande des studios via cette nouvelle société de production qui est Screen Gems. C'est une nouvelle fois une production maison, c'est-à-dire au travers de Sandy King, sa femme, qui va produire du coup cet opus-là. Et on peut dire aussi que du coup il y a un vrai investissement de John Carpenter sur ce projet-là, comme il l'avait pu le faire sur le film Vampire. Là, il est aussi sur le scénario, sur la musique, il est un petit peu partout. Alors, Ghost of Mars, concrètement, quand vous en parlez en fait à des cinéphiles ou à des gens qui apprécient le cinéma de genre, il n'a pas bonne réputation. Voilà, donc ça, faut déjà comprendre cet état de fait. C'est-à-dire que même quand il sort en 2001, le film est critiqué, conspué par la propre fanbase du réalisateur. Et c'est un phénomène en fait qui perdure encore aujourd'hui et que je n'arrive pas à comprendre. Donc le but aussi avec ce podcast là, c'est à la fois de vérifier, parce que c'est aussi le concept de la vérif, de vérifier ma nouvelle copie en HD et voir si elle est clean, voilà, si c'est satisfaisant, mais c'est aussi plus en mode réhabilitation de ce film, parce que on va le dire, là moi je l'ai regardé il y a deux jours. Et je reste sur la première impression que j'avais eue au cinéma. Ouais, Ghost of Mars, c'est génial. Voilà, je le pose déjà. Et je ne comprends pas cette espèce de vendetta qui s'est montée sur ce film-là. Alors, pour vous donner un petit peu l'état de fait, on va dire quelques exemples symptomatiques de ce qui s'était passé à l'époque, moi je m'en rappelle déjà, à la sortie en salle, je crois que dans la salle il n'y avait personne, je crois qu'il y avait moi, le projectionniste et trois pèlerins, voilà, à la sortie en salle. Et je pense que ça peut résumer un peu l'accueil qui a été réservé à ce film-là. Donc pas beaucoup de gens ont été le voir en salle, les critiques de l'époque lui sont tombées à bras raccourcis dessus, seul Mad Movies, pourtant c'était pas la bonne période de Mad Movies, seul Mad Movies a eu l'éclair de dire ben non, c'est un vrai film, c'est du pur John Carpenter. Donc c'est l'un des rares canards dédiés au cinéma de genre qui est monté au créneau pour défendre le film. Après, moi je m'en rappelle quand j'en avais discuté, on va dire avec d'autres, non, personne ne l'aimait. Et d'ailleurs, petite anecdote, mon édition collector DVD Film Office, eh ben, c'est un collègue qui me l'avait refilé. Mais il me l'avait refilé parce que cette édition collector DVD de Film Office, une espèce de gros digipack, était fourni du coup avec un DVD dédié au film, un DVD pour les bonus, un CD avec la bande originale, donc ça c'est ce qui est plutôt sympa, et un petit bouquin rétrospectif sur John Carpenter. Et bien lui, ce collègue-là, il m'avait filé l'édition collector, mais en gardant le bouquin. Ben, c'est symptomatique un petit peu de l'accueil qui était réservé à ce film-là. C'est-à-dire que les gens l'ont acheté, genre par, je sais pas, par soutien ou par habitude, ou pour faire genre, ouais, moi je suis fan de John Carpenter, j'achète ce truc-là. Au final, je ne l'aime pas, mais je conserve quand même le bouquin, je me débarrasse du film. J'avais trouvé ça assez bizarre, et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Si vous allez, on va dire, chercher cette édition qui est épuisée maintenant, hein. Donc si vous allez faire un petit tour sur Rakuten, par exemple, et que vous regardez, beaucoup de gens vendent cette édition-là sans le livre. Et si vous voulez obtenir cette édition-là avec le livre, je crois que c'est de l'ordre, j'ai vérifié aujourd'hui, en neuf de 150 €, ce qui est un prix énorme, hein, pour une telle édition, c'est du grand n'importe quoi. Mais voilà, c'est-à-dire que les gens gardaient le livre, mais se débarrassaient du film. Et j'ai envie de dire, ben non, ben voilà, j'ai envie d'être vulgaire comme je le fais souvent, mais espèce de connard, ça veut dire quoi? Tu gardes le livre pour te donner bonne conscience? Non, non, voilà. Donc ce film-là, aujourd'hui, quand j'ai commencé à communiquer un petit peu sur les réseaux sociaux, du Insta, du Facebook, etc., je me suis rendu compte que ouais, c'était toujours actif. Même un collègue parle de DTV de luxe. Et j'ai envie de dire, moi je ne comprends pas que des gens puissent aimer les aventures de Jack Burton, puissent aimer par exemple The Thing, Invasion Los Angeles, Prince des Ténèbres, mais n'aiment pas Ghost of Mars, parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, je vais commencer, même sans pitcher le film, sans rentrer directement dans le film, je vais commencer déjà par aller défoncer le monument. C'est-à-dire, voilà, qui aime bien châtie bien. C'est-à-dire, vous avez compris que, voilà, pour moi, John Carpenter, c'est le réalisateur. Mais je vais aller le défoncer pour que vous compreniez que, oui, Ghost of Mars, c'est valable. Parce que, regardez, prenons un film, voilà, qui mettra tout le monde d'accord. Invasion Los Angeles, The Live, voilà, le principe du film qui est inattaquable. Mais je vais le dire, la prestation de Roddy Piper, c'est de la merde. C'est-à-dire que si on est objectif, il joue mal. Les dialogues sont à chier. Voilà. C'est... Donc du coup, si on le compare au jeu d'acteur de Ice Cube dans Ghost of Mars, c'est du même acabit. C'est pareil. Donc, tout le concept autour de l'anti-héros qui est mis en place dans Ghost of Mars, c'est le même concept que l'on va retrouver dans Invasion Los Angeles, dans New York 97. Si vous prenez un peu de recul sur New York 97, c'est pareil. Voilà, le jeu de Kurt Russell, le jeu monoéthique de Kurt Russell, oui, on va attaquer nos idoles, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, ne viens pas me dire que Ghost of Mars, c'est de la merde et que New York 97, c'est génial, parce que c'est le même réal, c'est la même chose. On pourrait même dire que c'est quasiment le même film. C'est le même film. Donc, dernièrement, j'en discutais avec Peterson au téléphone, parce qu'on, voilà, on est tous les deux d'accord, là. On l'a revu il n'y a pas longtemps, voilà, on va dire quasiment 20 ans après sa sortie. Et ouais, Ghost of Mars, ça défonce, et on en est venu à la conclusion que la période dans laquelle il est sorti, c'est-à-dire début des années 2000, on va dire que, ouais, on était un petit peu comme des petits bourgeois. Donc les gens qui ont craché dessus étaient peut-être en mode un petit peu bourgeois, dans le sens où, comme on était inondés inondé de films de genre à droite et à gauche, c'était, on va dire, l'avènement des effets numériques, etc. Donc on bouffait du genre, donc ce film-là a été noyé dans la masse, et on a pu le traiter de haut à cause de cet état de fait. Mais aujourd'hui, je vous le dis, quand je regarde Ghost of Mars, mais ça enfonce toutes les saloperies de SF produites pour les plateformes de streaming. Je vais vous le dire, c'est 100 fois mieux. Voilà, c'est 100 fois mieux. Donc quand je regarde Ghost of Mars aujourd'hui, ça enfonce toutes les saloperies qui sortent sur Netflix. Et je vais le dire, Annihilation qui était sorti sur Netflix, ouais, à côté, c'est de la merde. Donc quand je regarde ce film-là aujourd'hui, et oui, je le prends avec amour parce qu'il y a tout ce que, et je vais en parler, il y a tout ce que j'aime dans le cinéma de genre qui est présent dans Ghost of Mars, ouais, c'est un putain de bon film. Et moi, ça, voilà, ça me démonte de le voir se faire démonter comme ça, à droite, à gauche, sans raison valable. Parce qu'il n'y a pas de raison valable. Ce qui est avancé est complètement con. Moi, j'ai pu lire des trucs, parce qu'il y a d'autres... Alors, bizarrement, il y a pas mal de webzines qui traitent de Ghost of Mars à la même période que 7ème Dimension fait un podcast sur Ghost of Mars. Je pense que les astres se sont réunis, se sont alignés, et c'est vrai que on est peut-être dans une période de réhabilitation de ce film-là, pourquoi pas, mais j'ai pu lire pas mal de conneries. Voilà, sur notamment le projet. Donc dans les conneries que j'ai pu lire, alors j'ai pas cité de source parce que voilà, ce serait trop facile de dire oh, et lui il dit de la merde, voilà, je suis pas là pour balancer, mais j'ai pu lire des conneries comme par exemple que le scénario de Ghost of Mars du coup serait en fait le troisième, on va dire le Escape from Earth qui avait été teasé par John Carpenter à l'époque, que c'était le scénario de ce troisième opus là des aventures de Snake. Ce qui est une vraie connerie, parce qu'il n'y a jamais eu de scénario sur le troisième opus. Voilà. Déjà, il n'y a pas de scénario sur le deuxième opus, voilà, je l'affirme clairement. C'est, comme je l'avais dit, c'est un remake du premier, donc il n'y avait pas de scénario pour le deux, et il n'y avait pas de scénario pour le troisième. Et puis personne n'aurait donné de l'argent pour en faire un troisième, alors que le deuxième, ça a été un four au box-office. Donc il y a cette vieille légende qui est en train de traîner, que je n'avais pas vue, voilà, qui est complètement nouveau, espèce de théorie du complot. La deuxième connerie que j'ai pu lire, c'est que qui est liée, hein, cette première connerie, c'est que au début Kurt Russell devait incarner le personnage de Désolation Williams, mais comme il était plus bankable, on l'a remplacé par Ice Cube. Qu'est-ce que c'est que cette connerie aussi? Voilà. Donc il y a des vieilles légendes qui traînent pour essayer de te dire que le film est bancal. Non, il est pas bancal, il est monté comme ça. Voilà. Donc quand je dis monté, c'est le business plan. Il a été monté sur le nom de Ice Cube. Donc faut arrêter les conneries maintenant. Et autre connerie aussi, c'est ça qui est intéressant à l'heure actuelle. C'est que les gens sont producteurs exécutifs. C'est-à-dire qu'ils ont des notions de comment on monte une production cinématographique. C'est-à-dire que t'entends des gens qui te disent « Ouais, le film a coûté quand même 28 millions de dollars, on se demande où est passé le budget à l'écran. » Mais vous êtes sérieux, les gars ? Non mais sans déconner, est-ce que déjà vous avez la notion de ce qu'est un budget cinématographique, voilà, et est-ce que vous savez à quoi correspond 28 millions de dollars par rapport à un projet de film de SF ? Regardez quand même, par exemple, une production comme Avengers Infinity War qui a coûté 350 millions de dollars hors coût marketing, qui est quasiment doublé, on est quasiment sur du plus de 700 millions de dollars, est en train de me dire que les 28 millions de dollars de Ghost of Mars, tu les vois pas à l'écran? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc voilà, donc plein de saloperies qui tournent autour de ce film pour essayer de le conspuer. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, on dirait un délit de faciès sur ce film-là. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon coup de gueule sur tous les gens qui crachent sur Ghost of Mars. Et j'ai envie de vous dire, après de toute façon ça c'est l'ère du 2.0 bien assumé, j'ai envie de vous dire, si vous l'aimez pas, ben le regardez pas, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule sur cette espèce de réputation que traîne Ghost of Mars. Maintenant, on va parler un petit peu de qu'est-ce que raconte Ghost of Mars. Alors Ghost of Mars, c'est un vrai postulat de SF. Ça se passe en 2176 sur la planète Mars. Donc la planète Mars a été colonisée, terraformisée, voilà. Donc, et du coup, on suit en fait une équipe de policiers, voilà, qui est menée par l'actrice Pam Grier, et suivie en fait de son sous-lieutenant qui est incarné par Natasha Henstridge, et qui vont en fait dans une petite ville appelée Shining Canyon pour récupérer un dangereux criminel qui s'appelle Désolation Williams, incarné du coup par Ice Cube. Donc toute cette petite troupe-là, en fait, se rend dans cette ville et se rend compte qu'il y a Pam qui vive. Voilà. Et on se pose la question du pourquoi il n'y a pas âmes qui vivent. Donc, au fur et à mesure, on va dire que cette escouade tombe sur Desolation Williams, qui est seul en cellule, et il commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre qui se trame. Et au fur et à mesure, ça c'est les quelques premières minutes hein, en fait, du film, au fur et à mesure de leur enquête, ils se rendent compte en fait que les gens qui vivent, du coup c'est une peuplade de miniers là, qui vivent en fait à Shining Canyon, sont devenus fous, qui sont mutilés, et qui sont en mode mutinerie, et qui sont là en train de défoncer tout le monde. Voilà le postulat de départ. Alors il y a très peu de rebondissements, comme d'habitude, je ne rentre pas énormément dans le détail. Donc là, en gros, on a de nouveau, parce que ça c'était le cas déjà dans Vampire, mais là c'est encore un peu plus affiché via la SF, on est de nouveau dans un postulat de western, mais dans un western bien ciblé, qui va être le Rio Bravo de Howard Hawks. Donc avec ce côté où nous avons ces flics, donc ils peuvent être des cow-boys qui arrivent en ville, Shining Canyon, c'est typiquement un nom de western, donc ça a la gueule du western aussi, donc ils arrivent en ville, et vous pouvez voir en fait la population minière révoltée, et du coup possédée par les esprits martiens, comme les potentiels indiens, comme l'ennemi en fait à abattre. Donc on est, et au final, cette escouade va devoir s'allier en fait au criminel Desolation Williams, pour vaincre en fait l'ennemi extérieur. Donc on est vraiment dans ce postulat de western. Voilà, c'est clairement affiché. Et du coup, on est aussi dans un remake non officieux du premier film de John Carpenter qui s'appelle Assaut, qui racontait quasiment la même histoire, avec un gang extérieur qui s'attaque à un commissariat où, du coup, le représentant de l'ordre est obligé de faire équipe avec la crapule pour pouvoir survivre à cette journée-là. Donc, on est sur un remake officieux de Assaut, on est sur un hommage clairement affiché au western, sur un remake aussi officieux de Rio Bravo, et du coup, j'ai envie de vous dire, ouais, John Carpenter boucle la boucle. C'est-à-dire que son dernier film, c'est le remake de son premier film. On peut pas faire mieux hein, pour terminer une carrière, hein, je pense. C'est aussi, ce film-là, un espèce de maxi best-of John Carpenter. Voilà, si on faisait une analogie avec McDonald's. C'est-à-dire que vous prenez en fait l'archétype principal du film Assaut. Vous rajoutez le côté possession qu'on pouvait avoir dans The Thing. Possession qui se fait en fait par une nappe de brouillard martien qui pourrait être assimilé à ce qu'on peut trouver dans Fog. Vous avez du anti-héros pur jus comme on a pu le voir au travers de sa filmographie, c'est-à-dire avec un John Nada de Invasion Los Angeles et avec par exemple un Snake Plissken ou un Jack Crow ou un Napoleon Wilson de Assaut. Donc on est clairement dans un menu maxi best-of, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous aimait chez John Carpenter se retrouve en un seul film. Donc ça fait quand même écho à mon coup de gueule de tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que on a vraiment les archétypes carpentériens à l'intérieur. Donc vraiment en mode hommage. De l'autre côté, sur le côté, on va dire, un peu plus technique, on retrouve son chef-op attitré depuis quelques films, qui est Garibay Kibbe, voilà, qui était déjà en charge de la photo de son précédent film Vampire, et il était déjà aussi sur Los Angeles 2013. Donc, de toute manière, Carpenter s'est toujours, on va dire, entouré de très bons chefs-op. C'est pour ça que ses films à lui, ils ont de la gueule. Voilà. Ça reste un tournage pellicule, ça reste un tournage en cinémascope en 2.35, avec une photo de Garibay Kibbe, qui est un peu l'héritier de Dean Cundey, qui a eu aussi fait le chef-op pour Carpenter. Donc on a cet aspect technique qui est verrouillé, validé, on sait qu'on est dans un film de Carpenter, les cadrages sont soignés, on retrouve aussi un petit peu l'expérimentation en termes de montage. Alors expérimentation, il n'a pas rajouté des choses nouvelles hein, dans son montage, mais on retrouve un petit peu cette expérimentation sur les fondus enchaînés lors des scènes d'action ou lors de moments en fait un peu épiques. Donc on retrouve cette utilisation des fondus enchaînés qui a été décriée par certains. Je vois pas pourquoi, ça amène, on change du cut traditionnel pour aller remettre un petit peu en avant le fondu enchaîné, pourquoi pas, moi je trouve que c'est louable, en tout cas ça m'a pas gêné. En termes de narration, on est sur une narration déstructurée, c'est-à-dire que ce que nous voyons, en fait, bon, le scénario, comme vous l'avez compris, il est ultra linéaire, hein. Vous avez une escouade qui arrive dans une ville, il y a une menace, il faut partir de la ville, des gens vont mourir, et puis après, fin de l'histoire. Donc ça, c'est une trame qui va d'un point A vers un point B, ultra simple, voilà, et on va dire que John Carpenter l'a complexifié un petit peu, en partant de la fin, c'est-à-dire qu'on voit ce qui est, on voit la seule survivante en fait du massacre, qui raconte de manière épisodique cette histoire-là. Ça permet, on va dire, de complexifier et de ne pas ennuyer le spectateur. Donc je trouve que c'est valable. Il y a un vrai questionnement de John Carpenter de se dire, bon ok, voilà, mon matériau de base est ultra simple, je vais essayer un petit peu de le regarder sous un autre angle, donc c'est valable. C'est un petit peu, on va dire, globalement, ce que fait un Tarantino sur ses scénarios, ce qu'il fait sur Reservoir Dogs ou Pulp Fiction, ce sont des scénars ultra linéaires, et on va dire que la critique des hautes sphères, quand elle voit un Tarantino, elle se dit « Oh là là, c'est génial en termes d'écriture !» Oui, c'est juste qu'il t'a pris les actes et qu'il les a mélangés. Voilà, il n'y a rien de fou là-dedans. Donc c'est un peu ce que fait Carpenter, donc là où j'ai pu lire ou entendre que Carpenter s'en fout De ce qui se passe à l'écran, non, moi je suis pas d'accord. Donc c'est à dire que quand t'as un mec qui a la prod, qui a la réal, qui est derrière la caméra et qui te compose la musique et qui se fait chier, non, tu peux pas dire qu'il est absent. Non, voilà. Donc sois juste, dis-toi que t'es juste de mauvaise foi quand tu dis ça, et puis comme ça au moins on gagnera du temps. Donc au niveau de l'aspect technique, c'est rondement de nez, et il y a une première quand même dans ce film là. Il y a une première qui est aussi annonciatrice de la suite de sa carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, John Carpenter ne tourne plus. Voilà, ça, c'est un état de fait. Mais par contre, il compose de la musique. Il a compris, grâce à cette vague en fait musicale de rétro-wave qui a émergé depuis quelques années, notamment son point de départ, c'est la France, avec des artistes comme Carpenter Brut, Zombie, etc. Donc, du coup, ou Kavinsky, par exemple, John Carpenter a compris, là, ça fait quelques années, que, ben oui, il est influencé par son style musical, et du coup, maintenant, il se consacre entièrement à la composition de bandes originales de films qui n'existent pas. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il présente cette chose-là. Et ce qui est valable, hein, donc c'est-à-dire que John Carpenter maintenant est un musicien, voilà, c'est un groupe à lui tout seul, et là où je voulais dire que Ghost of Mars était novateur, c'est qu'il y a déjà le déclic en fait au niveau de Ghost of Mars, c'est-à-dire que moi la musique de Ghost of Mars, elle est vraiment à part de sa filmographie, c'est du John Carpenter pur jus, mais pour une fois, il va tenter quelque chose qu'il n'avait pas tenté jusqu'à présent, c'est-à-dire que John Carpenter, le compositeur de musique de film, habituellement, il compose au synthé pour des raisons économiques et aussi parce que ça lui permet de prendre rapidement la main. Ce qu'il faut savoir avec John Carpenter, c'est qu'il a grandi dans une famille où la musique était présente, donc liée à sa mère notamment, et qu'il a très tôt en fait commencé à faire de la musique sans forcément avoir une formation musicale. C'est ça aussi la force des thèmes de John Carpenter, c'est qu'ils sont ultra simplistes, minimalistes, mais simpliste ne veut pas dire nul. C'est-à-dire qu'il a réussi à imprimer correctement les oreilles et la rétine grâce à sa musique, et ça c'est formidable. On peut comparer ses œuvres sur ses scores que sont par exemple les scores mythiques, notamment il y en a un qui me vient en tête qui est Halloween, que tout le monde connaît. C'est un petit peu ce que fait aussi John Williams sur Les Dents de la Mer. Quand on arrive à épurer au maximum en fait son thème, il en ressort en fait la substantifique moelle épinière sonore qui va permettre en fait de marquer durablement les oreilles. Et donc du coup, Halloween est entièrement lié à sa musique. C'est un petit peu aussi ce qui se passe, par exemple, sur le zombie de George Romero, quand vous le regardez en version américaine sans la musique des Goblins. Il manque quelque chose. Ou comme par exemple les films de Hitchcock, avec les partitions de son compositeur attitré. Donc il y a vraiment, clairement, un travail de John Carpenter sur la musique qui font qu'il s'approprie ses œuvres. Donc ça, c'est une première chose, et un travail important sur Ghost of Mars. Sur Ghost of Mars, donc la volonté en fait de John Carpenter, c'est de livrer une putain de série B énervée d'action. Un actionneur B, donc qui s'assume pleinement et énervé. Du coup, il avait l'habitude, notamment sur Vampire, parce qu'on était vraiment dans un hommage clairement, même audio, au western, de s'entourer en fait de musiciens de session qui lui permettraient en fait de retranscrire, en gros, cet hommage au western. Là, pour ce film d'action énervé, il se dit, ben, on va y aller franchement. On va faire du heavy metal. Et ça, c'est très rare au cinéma, ça je vous le dis, hein. Le dernier qui a fait ça, voilà, qui me vient en tête, c'est George Miller sur Mad Max Fury Road. Alors il n'y a pas une bande-son clairement heavy metal, mais ça transpire par tous les pores, et rien que le personnage du guitariste enchaîné du coup derrière les amplis, c'est clairement une putain d'idée métal. Voilà. Donc Ghost of Mars, c'est l'un des rares films où on a un réalisateur qui va composer métal et qui va faire appel à des gens de la scène métal. Donc bien entendu que moi ça me parle, je suis fan de métal et j'ai toujours, protégé et défendu cette idée que oui, clairement, cette musique-là, normalement, elle devrait servir un propos de cinéma de genre, et c'est très rare quand c'est fait. Et c'est dommage, parce que quand c'est fait, ça fonctionne très bien. Je vous donne un exemple. Une saga comme Terminator, vous prenez, et pour ceux qui ne connaissent pas, vous irez jeter une oreille, un groupe comme Fear Factory a pour vocation de faire une bande-son de Terminator. Bon, alors maintenant, c'est râpé, hein, parce qu'il faut voir ce qu'ils ont fait avec la franchise Terminator, mais il y a clairement des associations qui doivent être faites, qui sont naturelles, et qui ne sont pas faites, parce qu'on a peur. Aujourd'hui, il me semble que ces sous-cultures-là, elles sont intimement liées, voilà, et qu'on ne devrait plus avoir peur de le faire. Donc, je pense à un autre film, où il y a aussi Jason Statham à l'intérieur, qui est par exemple le Crank 2, voilà, donc le Hypertension en VF. La musique, la bande-son en fait de ce film-là, on l'a revu il n'y a pas longtemps avec Peterson, elle est signée Mike Patton, du coup le chef d'orchestre fou de Faith No More. Et donc Neville Dean et Taylor, ils ont bien compris que oui, pour un film aussi fou et aussi expérimental que Crank 2, ben ouais, il fallait un fou aussi à la musique. Voilà, le son va avec l'image. Donc voilà, donc parenthèse refermée, tout ça pour dire que John Carpenter se retrousse les manches et franchit le cap de faire une bande-son, pas rock'n'roll, mais heavy metal. Donc là, pour le coup, pour moi, la musique de Ghost of Mars, c'est un must-have. Voilà, c'est vraiment, mais ça ne concerne que moi par rapport à mes goûts personnels, mais c'est un must-have et c'est une date aussi dans l'histoire du cinéma où on va faire appel, hein, on va créer en fait un super groupe metal pour composer avec John Carpenter. Donc là il s'entoure en fait de la section rythmique de Anthrax. Donc Anthrax, groupe de thrash metal culte des années 80, qui est encore actif aujourd'hui, donc c'est un monument. Il fait partie du Big Four, avec Slayer, avec Metallica et avec Megadeth. Donc il fait appel à la section rythmique de Anthrax, qui est composée du coup de Charlie Benant, qui est composée de Scott Ian, et qui est composée de Frank Bello. Voilà. Donc il prend cette section rythmique et il va rajouter en fait des gratteux. Mais des putains de gratteux, il va faire appel à Steve Vai, il va faire appel aussi au très rigolo Buckethead, qui est un guitariste arboré du masque de Michael Myers avec du coup un seau en carton de KFC sur la tête, voilà, et il va faire appel aussi au gratteux de Nine Inch Nails qui est Robin Fink. Donc voilà, il s'entoure de super gratteux. Vous avez un bonus qui n'est pas présent sur le Blu-ray M6 Vidéo, et ça c'est un scandale. Donc s'il y a des gens d'M6 Vidéo qui écouteraient par hasard ce podcast, je dirais sans déconner quoi. C'était disponible sur le DVD Film Office, vous sortez le Blu-ray, vous mettez même pas ce putain de bonus, où on peut voir John Carpenter en session d'enregistrement de la musique de Ghost of Mars. Donc pour ceux qui ont le DVD Film Office, ben vous savez de quel bonus je parle. Pour les autres, sachez quand même qu'il est disponible du coup en VO sans sous-titres, bon, en même temps ils y parlent pas beaucoup, sur YouTube, je vous invite à aller le voir. C'est quand même un moment où vous voyez, c'est très rare aussi, hein, quand on peut voir des bonus sur la composition d'une bande originale de film, mais là, surtout dans ce cas de figure-là, où c'est une bande originale métal, voilà, avec ce All-Star Band formé pour l'occasion. Donc déjà, pour tout cet aspect-là, cet aspect technique, musical, visuel, etc., Ghost of Mars, ça défonce. Voilà, je vous le dis, encore une fois, pour moi, c'est terrible. Le film déjà s'ouvre avec ce thème là de John Carpenter avec le train qui avance. Alors ça a été critiqué, ouais c'est une maquette et tout, ouais super d'accord c'est une maquette, et donc moi pour moi ça passe toujours aussi bien, c'est toujours aussi valable. Peut-être que je suis du mauvaise foi, je ne crois pas. Donc voilà, ça s'ouvre sur ces notes là et ça défonce. Donc au niveau du casting, alors ça a été aussi un petit peu critiqué. Alors il y a eu des loupés qui pour moi, heureusement que ça s'est pas fait, je vais vous dire. Au départ, donc sachez qu'en fait, Ghost of Mars s'est mené par un tandem. Voilà, cette espèce de buddy movie asexué où d'un côté vous avez une femme forte et de l'autre du coup un outlaw. Donc la femme forte, le personnage de Melanie Ballard, qui est incarnée à l'écran par Natasha Henstridge, que vous aviez déjà vu plus dénudée Voilà, et ça c'était cool dans La Mutante, donc c'est bel et bien La Mutante des trois premiers opus, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, en lieu et place de Natasha Henstridge, au départ, on devait avoir Courtney Love. Alors Courtney Love, si elle avait été entre guillemets touchante dans ce film biographique sur Larry Flynt aux côtés de Woody Harrelson, non, je pense qu'on a eu du pot, on a eu du bol. Parce que là, pour le coup, ceux qui traitent Ghost of Mars de DTV de luxe, là ouais, ça aurait été du DTV de luxe. Non, Natasha Henstridge... Bon, déjà, bon, plastiquement, très belle, ça, aucun problème. Mais même, elle a un putain de jeu d'acteur. Honnêtement, John Carpenter, ouais, il a réussi à tirer le meilleur du jeu de Natasha Henstridge. Donc ouais, là, c'est clairement validé. En même temps, il arrive à tirer le meilleur de Daniel Baldwin. Donc, j'ai envie de vous dire, le boulot était moindre avec Natasha Henstridge. Donc déjà, Natasha Henstridge, au top, dans le rôle principal. Non, elle est vraiment badass. Donc, et puis, on n'est pas dans un côté voilà, où le personnage féminin va être caricaturé, etc. Au contraire, on a vraiment une icône féminine forte. Et il y a vraiment une volonté de le faire sans que ça soit affiché, vous voyez, c'est naturel. Donc voilà, et de toute manière, John Carpenter, tout au long de sa filmographie, il aura toujours réussi à mettre en avant les femmes, hein. Que ça soit Jamie Lee Curtis dans le Halloween, que ça soit dans Fog, Adrienne Barbeau, donc il a toujours réussi à faire des personnages féminins forts. Donc là, Natasha Henstridge, non, elle déroge pas à la règle, elle joue bien, elle est parfaite, et en plus, elle se permet même de faire pas mal de scènes d'action dans le film, donc non, c'est cool, et on voit qu'elle prend du plaisir à jouer, il n'y a pas de souci. À côté de ça, il lui associe, et ça a été le gros sujet de discussion à l'époque, c'est-à-dire que dans l'alter ego du cinéaste, dans le rôle de l'anti-héros en titre, le Désolation Williams, nous avons Ice Cube. Et c'est vrai que à l'époque, quand on regarde le film et qu'on voit qu'on a Jason Statham dans un dixième rôle, on pouvait se poser la question de « Eh merde !» il n'y a pas un miscast à ce moment-là, et ben en fait non, il n'y a pas de miscast en fait. Ice Cube, pourtant c'est pas un acteur qui physiquement en impose, donc c'est-à-dire si vous regardez Ghost of Mars, c'est un acteur qui est pas grand, il arrive à peine, je crois qu'il est même légèrement plus petit que Natasha Henstridge, et il est plus petit que le reste du casting, sauf que Ice Cube, c'est pas un nouveau venu au niveau du cinéma. Alors il y en a beaucoup à l'époque qui ne connaissaient pas, enfin qui connaissaient Ice Cube, du coup le musicien, mais pas Ice Cube, on va dire le scénariste ou l'acteur. Donc Ice Cube, déjà, il a un vécu sur sa tronche. Voilà. Donc pour ceux qui écoutent ou qui ont suivi un peu la carrière musicale de l'artiste et aussi du groupe NWA, vous savez que cet acteur, voilà, ce qu'il y a sur sa tronche, il y a un vécu, il y a un vrai vécu, c'est pas un vécu d'acteur, donc il amène ça dans son film. Il avait déjà aussi été acteur dans des films de John Singleton, comme Le Fièvre à Columbus University, que je vous conseille aussi également, voilà, que vous pouvez vous faire en double programme avec Un Menace to Society, et il a scénarisé aussi des films qui sont les Friday, voilà, la série des Friday, et il a même une autre anthologie un peu plus comique, qui est la série des Barbershop, voilà. Donc du coup, Ice Cube, il a très tôt travaillé, notamment au niveau de sa prose, il l'a très tôt adapté à des scénarios pour le cinéma, et il a fait aussi très tôt l'acteur. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui est important. Il faut pas regarder les années 2000 et se dire « Ah ouais, putain, Ice Cube, c'était un rappeur qui a décidé de faire comme les DMX et les Nas et autres rappeurs de l'époque, ou les Ja Rule, de faire deux films, et ça a été Ghost of Mars et Triple X2. » Non, c'est pas ça. Il était déjà là avant les autres. C'est lui qui a ouvert la voie. Et au final... quand on le voit en action, il amène en fait ce côté un peu hood, un peu gangsta au personnage, et vous verrez qu'il y a un sous-texte politique à l'intérieur, une volonté de la part de John Carpenter aussi d'avoir Ice Cube. Donc oui, il amène un autre côté au personnage, et du coup, oui, il fonctionne. Moi, à la revoyure, là, c'est ce qui s'est passé. Ouais, j'ai pris du plaisir à ses répliques, avec ses motherfuckers un peu droite à gauche, et puis même dans les scènes d'action, il démérite pas. Donc ouais, Ice Cube, moi, je valide. Vrai bon choix de casting dans ce film de SF-là. Après, autour de ça, beaucoup de gens aussi ont gueulé... Ouais, il y a quand même un sacré casting quand même avec Ghost of Mars. Donc vous avez Natasha Henstridge, Ice Cube, vous avez Pam Grier, vous avez Cléa Duval aussi, fille de Robert Duval qu'on avait déjà vu dans The Faculty. Vous avez Jason Statham, et puis vous allez même retrouver des acteurs cultes de John Carpenter dans des petits rôles, donc des habitués comme Peter Jason qui conduit le train, voilà. Ça apparaît pas sur le Wikipédia si vous le cherchez, parce que Wikipédia, ils aiment pas trop Ghost of Mars, ils ont pas trop creusé. Donc oui, c'est bien Peter Jason que vous avez déjà vu dans tous les précédents films de John Carpenter, et notamment dans Invasion Los Angeles pour un rôle un peu plus conséquent. Donc oui, il y a vraiment un sacré casting, et je m'en rappelle qu'à l'époque, voilà, donc c'est produit en 2000, ça sort en 2001. À l'époque, Pam Grier a sorti du Jackie Brown de Tarantino. Et elle avait avant fait une traversée du désert dans les séries Z. Donc ouais, elle a pas un rôle prédominant. Donc il y a juste une volonté de John Carpenter de la faire tourner à nouveau, parce que John Carpenter l'avait fait tourner dans Los Angeles 2013, voilà, dans le rôle du coup d'un transsexuel. Donc voilà, il y a plein de conneries quand même dans Los Angeles 2013 quand j'y réfléchis maintenant, quand je vous en parle. Mais ouais, c'était aussi un peu une habituée de John Carpenter, donc voilà. C'est moyen de dire, voilà, il y a un petit rôle, je te file un truc. Donc oui, après Jackie Brown, on aurait pu être en droit de l'attendre dans un rôle de premier plan. Non, c'est pas un rôle de premier plan, voilà. Et Jason Statham, il sortait de Snatch aussi, donc il a pas eu la carrière qu'il avait derrière. Il est quand même présent, j'ai vérifié quand même. C'est quand même un second rôle. Allez, le film dure 1h38, il est là pendant 1h30. Ça va, ouais. Mais c'est vrai que ça aurait peut-être pu donner quelque chose d'autre pour le rôle de Désolation Williams, mais vous allez voir que Ice Cube était nécessaire pour servir le propos de John Carpenter. Et on va y venir. Dans ce Ghost of Mars, si on lit les interviews de John Carpenter, il disait à l'époque que son Ghost of Mars a un sous-texte qui sera vraiment effectif dans quelques années. Et oui, en le regardant aujourd'hui, ouais, il y a un sous-texte qui est effectif. Déjà d'une, c'est un film pré-11 septembre. Donc c'est-à-dire qu'il a été tourné du coup avant le 11 septembre et il est sorti du coup après le 11 septembre. Donc c'est un film pré-11 septembre et on y traite de quoi au final ? On y traite en fait d'une population terrienne qui s'installe sur Mars, donc qui s'installe chez quelqu'un d'autre pour y piller les ressources, et au final, qu'est-ce qui se passe ? Le peuple d'origine, du coup, se révolte et mène des mini-vendettas, comme du coup des attentats, si vous préférez. Donc déjà, j'ai envie de dire, ouais, John Carpenter, son cinéma est politisé, donc il y a toujours ses idées à l'intérieur, et oui, c'était prémonitoire. Donc on peut dire que Ghost of Mars, voilà, pour ceux qui traitaient ce film-là de DTV de luxe et qui se disaient oui c'est de l'action bourrine et tout ça, ben non les gars, il y a un sous-texte, donc il y avait déjà quelque chose de présent. Donc c'est un film pré-11 septembre. Et c'est aussi quand on voit en fait le mouvement récent qu'il y a eu au niveau de la population afro-américaine, voilà, on en est encore là quand même en 2020. C'est-à-dire que on a encore des problèmes de racisme aux États-Unis. Et le personnage en fait incarné par Ice Cube, si on regarde un peu le sous-texte, c'est un personnage de voyou, mais on l'accuse à tort de certaines choses, voilà, comme l'affaire en fait un petit peu, comme certaines affaires qu'on a pu voir, qu'on a pu entendre à l'époque aux États-Unis. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est un natif de Mars. Voilà, c'est un petit truc qui est en latence en fait dans le scénario. C'est un natif de Mars et il a ce côté un petit peu d'appartenir à aucun groupe en fait. Donc il y a ce côté aussi de voilà, je fais partie des colons, mais je suis rejeté par ma propre patrie, et en plus je me fais défoncer en fait par le peuple d'origine. Donc il y a ce sous-texte aussi qui est intéressant. Autre chose aussi, qui au final on pourrait croire que ça sert à rien mais qui est intéressant, c'est que la société du coup futuriste de Ghost of Mars est une société matriarcale, c'est un matriarcat à la place du patriarcat. Et donc ça renverse un peu les valeurs, je sais pas pourquoi je dis les vapeurs, donc ça renverse un petit peu le rapport qu'on pourrait avoir entre le masculin et le féminin dans un film d'action. Je trouve que c'est intéressant, c'est un petit peu ce qu'il fait avec la structure de son scénario, il fait aussi au niveau, on va dire, des valeurs mêmes que véhiculent les personnages. Donc c'est très rigolo au final de voir le personnage de Jason Statham dans le rôle de la pute blonde qu'on pourrait pourrait voir dans un actionneur bourrin de base. Donc c'est Jason Statham, voilà, c'est la bimbo qui passe son temps à essayer de séduire le personnage principal et qui est incarné par Natasha Henstridge. Donc c'est assez rigolo de voir certains acteurs bourrins dans le rôle d'une bimbo. C'est pour ça aussi que John Carpenter, je pense, a verrouillé le choix de Jason Statham, du coup, dans ce rôle, dans ce second rôle, en fait. Donc voilà, il y a plein de petites choses à l'intérieur, comme ça, quand on prend un peu de recul, qui sont croustillantes. Donc, après, je vais vous le dire, hein, Ghost of Mars, c'est 1h38, c'est 1h38 mené tambour battant, on se fait pas chier. Moi, je vous le dis, je me fais moins chier dans Ghost of Mars que dans Vampire, par exemple, où je trouve que Vampire, il y a un ventre mou de la dernière demi-heure. Là, on n'a pas le temps de se faire chier. Je trouve que le rythme est bien mené, c'est-à-dire que ça démarre progressivement, et par contre, une fois que les guitares sont lancées, que la bande-son est lancée, et que les scènes d'action sont lancées, ça ne s'arrête quasiment jamais. Donc ça, c'est très intéressant. Et je pourrais même faire écho, quand je vois, on lui a reproché la simplicité de ce scénario, d'aller d'un point A à un point B, on est allé dans le train, puis avec le train, on revient pour faire sauter. Eh bien, je trouve que c'est un petit peu le même scénar, en fait, que celui de Fury Road, où le personnage va d'un point A vers un point B, puis repart du point B pour aller au point A. Donc je trouve que... Et alors, dans le cas de George Miller, tout le monde a dit « Oui, c'est fantastique, on a épuré au maximum le propos pour arriver à la quintessence du film d'action. » Et alors, et ta gueule, et pourquoi c'est pas le cas pour Ghost of Mars ? Délit de faciès, moi, j'appelle ça. Donc oui, effectivement... Voilà, on pourrait faire une analogie avec le travail de George Miller. Donc c'est de l'action menée tambour battant, je me suis éclaté, et j'ai envie de vous dire, la némésis principale, donc le chef de cette armée martienne, hein, qui possède les corps humains, hein, qui est incarné par le cascadeur Richard Citron, il est génial, il s'appelle Big Daddy Mars. Donc alors personne ne prononce Big Daddy Mars, hein, dans le film, mais c'est le surnom qui a été donné par John Carpenter, qu'on retrouve dans le générique. Donc Big Daddy Mars, il m'éclate, parce qu'il passe son temps à être énervé, être en colère et à gueuler. On dirait en fait un espèce de groupie complètement bourré de trash metal, et c'est même limite cartoonesque. On dirait par exemple le coyote qui s'est pris 10 murs de briques sur la tronche et qui à chaque fois se relève et est en colère. Donc c'est génial. Donc il y a ce côté-là où il me fait régaler avec la musique qui va avec, où il passe son temps à gueuler. Et putain, moi j'aime ce plan de fin où il se fait défoncer par Ice Cube, et voilà, avec la punchline qui va avec, et non, c'est génial. Non, il m'a éclaté. Alors, moi, je me rappelle qu'un magazine aussi naze que Télérama, qu'il est toujours, hein, si vous m'écoutez, vous êtes toujours aussi naze, eux ont rué dans les brancards bien pensants en disant « Oui, Ghost of Mars, ça a une esthétique un peu type Marilyn Manson. » Voilà, ça, c'est le principal cliché débile que peut avoir quelqu'un qui sait pas de quoi il parle. C'est-à-dire qu'il entend des bruits de guitare, il voit, du coup, un personnage un peu looké bizarre avec du fond de teint blanc sur la gueule et les cheveux noirs, c'est Marilyn Manson. C'est risible, et c'est le trois quarts des chroniques qu'on peut trouver sur le net ou dans les bouquins à la con sur Ghost of Mars. Donc oui, il y a un son métal et il y a une esthétique métal, mais l'esthétique métal, elle s'inspire de quoi, cette esthétique métal? De ce qu'on a pu voir de certaines tribus, etc. Donc c'est comme si tu débarques en Amazonie avec les mecs qui sont percés dans tous les sens et tu dis excuse-moi, petit indien d'Amazonie, tu ne serais pas fan de Marilyn Manson? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Donc voilà, donc je me permettais un petit peu de faire quelques élucubrations qui font marrer peut-être que moi là-dessus, mais en tout cas, vous l'aurez compris, voilà, Ghost of Mars, c'est du pur plaisir en bar. J'ai envie de vous dire, pour moi, si vous avez un samedi soir là de libre, c'est le pur produit du samedi soir. C'est un pur B jouissif, il y a du sous-texte politique en dessous, on s'y ennuie pas une seule seconde, c'est novateur au niveau de la musique, ça a de la gueule, c'est le dernier bon film, putain de merde, de John Carpenter, ça tombe bien, il en fera quasiment pas d'autres derrière, vous oubliez The Ward, vous redonnez sa chance à Ghost of Mars. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire au travers de cette vérif. Alors, qui dit vérif, dit ben, vérifier une qualité. Donc oui, je me suis récupéré, ben, Vampire était chez M6 Vidéo, donc c'est une question de droit. Donc Ghost of Mars, fin de carrière, c'est sur chez M6 Vidéo. Le master est propre, voilà, donc c'est super beau. Moi, je me le surfais, je l'avais pas revu en fait, du coup, en HD. Voilà, j'étais resté sur ma vision sale et mes multiples visions DVD. Donc, ouais, en Blu-ray, c'est toute beauté. Moi, je me suis mis les watts à fond quand je l'ai regardé. Je me suis éclaté, je me suis pas fait chier une seule seconde, pourtant, je l'avais archi vu. Par contre, au niveau éditorial, voilà, M6 n'a pas repris les bonus existants, alors je sais pas si c'est pour des raisons de droit, de l'édition Film Office, ils ont repris certains, ils en ont bricolé d'autres. Voilà, donc bon, j'ai envie de vous dire, c'est pareil, hein, je crois que sur Amazon, ça se trouve aller à 10 balles, quasiment, hein, j'arrondis, soit c'est 11,90, soit c'est 9,90, vous auriez tort de vous en priver. Donc voilà, faites-vous plaisir, et j'ai envie de vous dire, ouais, essayez de récupérer l'édition DVD, bon ben sans le bouquin, parce que ces petits bâtards, ils les vendent sans le bouquin. En même temps, le bouquin se trouve à part. Aussi, essayez de récupérer cette édition collector pour les collectionneurs d'entre vous, parce qu'elle est, elle est vachement bien. Donc voilà, le diptyque estival sur John Carpenter, c'est terminé. Donc en termes de durée, je suis à peu près pareil. Donc ça veut dire qu'en 2 heures, vous pouvez vous faire une spéciale John Carpenter fin de carrière. Pour ce qui est de la suite de la vérif, eh ben, j'ai pas encore forcément de plan bien établi. J'ai reçu pas mal de choses, hein. Du chat qui fume, du SC distribution, j'ai du Pulse aussi vidéo avec du post-nuke. J'ai encore des choses à déterrer, donc je verrai bien là où le vent me portera. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'en profiterai aussi pour prendre quelques jours de congé. Ça fait du bien. Et je vous retrouverai sûrement soit pour une nouvelle vérif, soit directement pour le spécial American Ninja que je prépare avec Peterson. Donc ça va être super sympa. Et comme d'habitude, on n'oublie pas, vous venez d'écouter un podcast de 7ème dimension, et à 7ème dimension, notre créneau à nous, bordel, c'est le cinéma de genre. Merci pour votre écoute.
Jusqu'à la prochaine émission de
7ème dimension en mode podcast.